Première partie. Début d'un règne. Chapitre 1. Château Gaillard. Planté sur un éperon crayeux, au-dessus du bourg du Petit Andely, Château Gaillard dominait, commandait toute la Haute-Normandie. La Seine à cet endroit décrit une large boucle dans les prairies grasses. Château Gaillard surveillait 10 lieues de fleuve, aval et amont. Richard Cœur de Lion l'avait fait bâtir 120 ans plus tôt, au mépris des traités, pour défier le roi de France. Le voyant achevé, dressé sur la falaise à 600 pieds de hauteur, et tout blanc dans sa pierre fraîchement taillée, avec ses deux enceintes, ses ouvrages avancés, ses herses, ses créneaux, ses barbacanes, ses 13 tours, son gros donjon, Richard s'était écrié. « Ah, ceci me paraît un château bien gaillard !» Et l'édifice ainsi avait reçu son nom. Tout était prévu dans les défenses de ce gigantesque modèle d'architecture militaire. L'assaut, l'attaque frontale ou tournante, l'investissement, l'escalade, le siège, tout sauf la trahison. 7 ans seulement après sa construction, la forteresse tombait aux mains de Philippe Auguste, en même temps que celui-ci enlevait au souverain anglais le duché de Normandie. Depuis lors, Château Gaillard avait été utilisé moins comme place de guerre que comme prison. Le pouvoir y enfermait des adversaires dont la liberté était intolérable pour l'État, mais dont la mise à mort eût pu susciter des troubles ou créer des conflits avec d'autres puissances. Qui franchissait le pont-levis de cette citadelle avait peu de chances de revoir le monde. Les corbeaux tout le jour croassaient sous les toitures. La nuit, les loups venaient hurler jusqu'au pied des murs. En novembre 1314, Château Gaillard, ses remparts et sa garnison d'archers ne servaient qu'à garder 2 femmes. L'une de 21 ans, l'autre de 18. Marguerite et Blanche de Bourgogne, 2 princesses de France, belles-filles de Philippe le Bel, décrétées de réclusion perpétuelle pour crime d'infidélité envers leurs époux. C'était le dernier matin du mois et l'heure de la messe. La chapelle se trouvait dans la 2e enceinte. Elle prenait assise sur la roche. Il y faisait sombre, il y faisait froid. Les murs, sans aucun ornement, suintaient. 3 sièges seulement y étaient disposés. 2 à gauche, qu'occupaient les princesses, 1 à droite pour le capitaine de la forteresse, Robert Bersumet. Derrière, les hommes d'armes se tenaient debout, alignés, montrant le même ennui, la même indifférence, que s'ils avaient été rassemblés pour la corvée de fourrage. La neige qu'ils transportaient à leurs semelles fondait autour d'eux, en flaques jaunâtres. Le chapelain tardait à commencer l'office. Dos à l'autel, il frottait ses doigts gourds aux ongles ébréchés. Un imprévu, visiblement, perturbait sa pieuse routine.
« Mes frères, dit-il, il nous faut ce jour élever nos prières avec grand ferveur et grande solennité. »
Il s'éclaircit la voix et hésita, troublé par l'importance même de ce qu'il avait à annoncer.
« Messire, Dieu vient de rappeler à lui l'âme de notre bien-aimé roi Philippe. C'est dure affliction pour tout le royaume. »
Les 2 princesses tournèrent l'une vers l'autre, leurs visages enserrés dans des béguins de grosses toiles bises.
« Que ceux qui lui firent tort ou injure en aient pénitence au cœur, » continua le chapelain. « Que ceux qui lui gardaient grief en son vivant implorent pour lui la miséricorde dont chaque homme qui meurt, grand ou petit, a égal besoin devant le tribunal de notre Seigneur. »
Les 2 princesses étaient tombées à genoux, courbant la tête pour cacher leur joie. Elles ne sentaient plus le froid, elles ne sentaient plus leur angoisse ni leur misère. Une immense onde d'espérance les parcourait. Et si, dans leur silence, elles s'adressaient à Dieu, c'était pour le remercier de les avoir délivrées de leur terrible beau-père. Depuis 7 mois qu'on les avait enfermées à Château Gaillard, le monde leur envoyait enfin une bonne nouvelle. Les hommes d'armes, dans le fond de la chapelle, chuchotaient, s'agitaient, remuaient les pieds. Est-ce qu'on va donner à chacun de nous un sou d'argent? Parce que le roi est mort? Cela se fait, ce qu'on m'a dit. Mais non, pas pour la mort. Pour le sacre du nouveau roi, peut-être bien. Et comment va-t-il s'appeler maintenant, le roi? Est-ce qu'il va faire la guerre, qu'on change un peu de pays? Le capitaine de la forteresse se retourna et leur lança d'une voix rude « Priez !» La nouvelle lui posait des problèmes, car l'aînée des prisonnières était l'épouse du prince qui devenait roi aujourd'hui. « Me voilà donc gardien de la reine de France, » se disait le capitaine. Ce ne fut jamais une situation aisée que d'être le geôlier de personnes royales. Robert Bersumet devait à ces deux condamnés qui lui étaient arrivés vers la fin avril, la tête rasée dans des chariots tendus de noir et sous l'escorte de 100 archers, les plus mauvais moments de sa vie. Deux femmes jeunes, trop jeunes pour qu'on n'eût pas pitié d'elles. Belles, trop belles, même sous leurs informes robes de bure, pour qu'on pût se défendre d'être ému en les approchant, jour après jour, pendant 7 mois. Qu'elles allassent séduire un sergent de la garnison, s'évader, ou bien que l'une d'elles se pendît ou gagna une maladie mortelle, ou encore que leur survint un retour de fortune, et ce serait toujours lui, Bersumet, qui serait en tort, réprimandé pour trop de faiblesse ou trop de rigueur. Et dans tous les cas, cela ne lui vaudrait rien pour son avancement. Or, pas plus que ses prisonnières, il n'avait envie de terminer ses jours dans une citadelle battue des vents, mouillée des brumes, construite pour contenir 2000 soldats, et qui n'en comptait plus que 150, au-dessus de cette vallée de Seine par où la guerre, depuis beau temps, ne passait plus. L'office se déroulait, mais personne ne pensait ni à Dieu ni au roi. Chacun ne pensait qu'à soi. « Requiem aeternam, dona ei domine », entonnait le chapelain. Dominicain en disgrâce, qu'un sort contraire et le goût du vin avaient fait échouer à cette desserte de prison, le chapelain, tout en chantant, se demandait si le changement de règne n'apporterait pas quelques modifications dans sa propre destinée. Il résolut de ne plus boire pendant 1 semaine pour mettre la Providence dans son jeu et se préparer à accueillir un événement favorable. « Et lux perpetua luceat ei », répondait le capitaine. En même temps, il pensait « On ne saurait me faire de reproches. J'ai appliqué les ordres que j'ai reçus, voilà tout, mais je n'ai point infligé de sévices. » « Requiem aeternam », reprenait le chapelain. « Alors, on va point même nous bailler un seutier de vin ?» chuchotait le soldat Gros Guillaume au sergent Lalaine. Quant aux deux prisonnières, elles se contentaient de remuer les lèvres, mais n'osaient prononcer le moindre répond. Elles eussent chanté trop haut et trop joyeusement. Certes, ce jour-là, dans les églises de France, il se trouvait beaucoup de gens pour pleurer le roi Philippe, ou croire qu'il le pleurait. Mais en vérité, l'émotion, même chez ceux-là, n'était qu'une forme d'apitoiement sur eux-mêmes. Ils s'essuyaient les yeux, reniflaient, hochaient le front, parce que, avec Philippe le Bel, c'était leur temps vécu qui s'effaçait. Toutes les années passées sous son sceptre, presque un tiers de siècle dont son nom resterait la référence. Ils pensaient à leur jeunesse, prenaient conscience de leur vieillissement, et les lendemains soudain leur semblaient incertains. Un roi, même à l'heure qu'il trépasse, reste pour les autres une représentation et un symbole. La messe achevée, Marguerite de Bourgogne, passant pour sortir devant le capitaine de forteresse, lui dit « Messire, je souhaite vous entretenir de choses importantes et qui vous concernent. » Bersumet éprouvait une gêne chaque fois que Marguerite de Bourgogne, lui parlant, le regardait dans les yeux. « Je viendrai vous entendre, madame, » répondit-il, « aussitôt que j'aurai fait ma ronde. » Il ordonna au sergent Lalaine de reconduire les prisonnières en lui conseillant à voix basse un redoublement tout à la fois d'égard et de prudence. La tour où Marguerite et Blanche étaient recluses ne se composait que de 3 grandes chambres rondes, superposées et identiques, 1 par étage, avec chacune une cheminée à hotte et un plafond voûté. Ces pièces étaient reliées par un escalier en escargot qui tournait dans l'épaisseur du mur. Un détachement de gardes occupait en permanence la chambre du rez-de-chaussée. Marguerite logeait dans la pièce du premier étage et Blanche dans celle du second. La nuit, les princesses étaient séparées par des portes épaisses qu'on cadenassait. Dans la journée, elles avaient le droit de communiquer. Lorsque le sergent les eut raccompagnées, elles attendirent que les gonds et les verrous eussent grincé au bas des marches. Puis elles se regardèrent et, du même mouvement, coururent l'une vers l'autre en s'écriant
« Il est mort ! Il est mort !»
Elles s'étreignaient, dansaient, riaient et pleuraient tout ensemble. Et inlassablement, elles répétaient
« Il est mort !»
Elles arrachèrent leurs béguins de toile et libérèrent leurs cheveux courts, leurs cheveux de 7 mois.
« Un miroir ! La première chose que je veux, c'est un miroir !»
s'écria Blanche comme si elle allait être libérée sur l'heure et déjà n'avait plus à se soucier que de son apparence. Marguerite était casquée de petites boucles noires, tassées et crépues. Les cheveux de Blanche avaient repoussé inégalement par mèches drues et pâles, pareilles à du chaume. Les deux femmes se passaient les doigts instinctivement sur la nuque.
« Crois-tu que je pourrais être jolie à nouveau ?»
demanda Blanche.
« Comme je dois avoir vieilli pour que tu me poses pareille question !» répondit Marguerite.
Ce que les deux princesses avaient subi depuis le printemps, le drame de Maubuisson, le jugement du roi, le monstrueux supplice infligé devant elles à leurs amants sur la grand-place de Pontoise, les cris orduriers de la foule, et puis cette demi-année de forteresse, cette touffeur de l'été surchauffant les pierres, ce froid glacial depuis qu'était arrivé l'automne, ce vent qui gémissait sans répit dans les charpentes, cette noire bouillie de sarrasin qu'on leur servait au repas, ces chemises aussi rugueuses que du crin qui ne leur était changé que tous les 2 mois, ces jours interminables, derrière une embrasure mince comme une meurtrière et par laquelle, de quelque manière qu'elles missent la tête, elles ne pouvaient rien apercevoir que le casque d'un invisible archer passant et repassant sur le chemin de ronde. Tout cela avait trop fortement altéré le caractère de Marguerite. Elle le sentait, elle le savait, pour ne pas lui avoir aussi modifié le visage. Blanche, avec ses 18 ans et son étrange légèreté qui la faisait glisser en un instant de la désolation aux espoirs insensés, Blanche, qui pouvait soudain s'arrêter de sangloter parce qu'un oiseau chantait de l'autre côté du mur, et s'écriait émerveillée
« Marguerite, tu entends ? Un oiseau !»
Blanche, qui croyait aux signes, à tous les signes, et qui faisait des rêves sans arrêt, comme d'autres femmes font des ourlets, Blanche, peut-être, si on la sortait de cette geôle, serait capable de retrouver son teint, son regard et son cœur d'autrefois. Marguerite, jamais. Depuis le début de sa captivité, elle n'avait pas versé une seule larme, ni exprimé non plus une seule pensée de remords. Le chapelain qui la confessait chaque semaine était effrayé de la dureté de cette âme. Pas un moment Marguerite n'avait consenti à se reconnaître responsable de son malheur. Pas un moment elle n'avait admis que lorsqu'on était petite fille de Saint-Louis, fille du duc de Bourgogne, reine de Navarre et future reine de France, se faire la maîtresse d'un écuyer constituait un jeu périlleux, répréhensible, qui pouvait coûter l'honneur et la liberté. Elle s'était fait justice d'avoir été mariée à un homme qu'elle n'aimait point. Elle ne se reprochait pas d'avoir joué. Elle haïssait ses adversaires. Et c'était uniquement contre eux qu'elle tournait ses inutiles colères, contre sa belle-sœur d'Angleterre qui l'avait dénoncée, contre sa famille de Bourgogne qui ne l'avait point défendue, contre le royaume et ses lois, contre l'Église et ses commandements. Et quand elle rêvait de la liberté, elle rêvait aussitôt de vengeance. Blanche lui passa le bras autour du cou.
« Je suis sûre, mamie, que nos malheurs sont finis. »
« Ils le seront, » répondit Marguerite, « à condition que nous agissions habilement et promptement. » Elle avait un vague projet en tête, qui lui était venu pendant la messe et dont elle ne savait pas où il l'amènerait. Elle voulait, de toute manière, mettre la situation à profit. « Tu me laisseras parler seule à ce grand éhanché de Bersumé, dont j'aimerais mieux voir la tête au bout d'une pique que sur ses épaules, » ajouta-t-elle. Un moment après, les deux femmes entendirent qu'on déverrouillait les portes. Elles recoiffèrent leurs béguins. Blanche alla se placer dans l'ébrasement de l'étroite fenêtre. Marguerite s'assit sur un escabeau, seul siège dont elle disposa. Le capitaine de forteresse entra. « Je viens, madame, ainsi que vous m'en avez prié, » dit-il. Marguerite prit son temps, le regarda de la tête aux pieds et dit « Messire Bersumet, savez-vous qui, désormais, vous gardez ?» Bersumet détourna les yeux comme s'il cherchait un objet autour de lui.
« Je le sais, madame, je le sais, » répondit-il, « et ne cesse d'y penser depuis ce matin que le chevaucheur qui allait vers Criquebœuf et Rouen m'a fait éveiller.
Voilà 7 mois que je suis recluse ici. Je n'ai point de linge, point de meubles, point de draps. Je mange la même bouillie que vos archers, et je n'ai qu'1 heure de feu par jour.
J'ai obéi aux ordres de Messire de Nogaret, madame, répondit Bersumet.
Guillaume de Nogaret est mort.
Il m'avait envoyé les instructions du roi.
Le roi Philippe est mort.
Devinant où Marguerite voulait en venir, Bersumet répliqua. Mais Monseigneur de Marigny est toujours vivant, madame, qui commande la justice et les prisons comme il commande toutes choses au royaume et de qui je dépends pour tout.
Le chevaucheur de ce matin ne vous a donc point porté de nouveaux ordres ?
Aucun, madame.
Vous n'allez point tarder à en recevoir.
Je les attends, madame.
Robert Bersumet paraissait plus âgé que ses 35 ans. Il offrait cette mine soucieuse, bougonne, que prennent volontiers les soldats de carrière et qui, à force d'être affectés, leur devient naturelle. Pour le service ordinaire dans la forteresse, il portait un bonnet de peau de loup et une vieille cotte de maille un peu lâche, noircie par la graisse, et qui blousait autour du ceinturon. Ses sourcils se rejoignaient au-dessus du nez. Marguerite, au début de sa captivité, s'était presque sans détour offerte à lui, dans l'espoir de s'en faire un allié. Il avait esquivé devant chaque avance, moins par vertu que par prudence. Mais il conservait rancune à Marguerite pour le mauvais rôle qu'elle lui avait fait tenir. Aujourd'hui, il se demandait si cette sage conduite lui vaudrait personnellement faveur ou représailles.
« Cela ne m'a point été plaisir, madame, » reprit-il, « que d'avoir à infliger tel traitement à des femmes, et de si haut rang que vous l'êtes. »«
Je l'imagine, messire, je l'imagine, » répondit Marguerite. Car on sent en vous le chevalier, et les choses qu'on vous a commandées ont dû fort vous répugner. Le capitaine de forteresse sortait du commun peuple. Aussi n'entendit-il pas sans quelque plaisir ce mot de chevalier. Seulement, messire, poursuivit la prisonnière, je suis lasse de mâcher du bois pour me garder les dents blanches, et de moindre les mains du lard de ma soupe pour que ma peau n'éclate pas de froid.
Je comprends, madame, je comprends.
Je vous saurai gré de me faire désormais tenir à l'abri du gel, de la vermine et de la faim. »
Bersumet baissa la tête. « Je n'ai point d'ordre, madame.
Je ne suis ici que par la haine que me vouait le roi Philippe, et son trépas va tout changer, » reprit Marguerite avec une belle assurance. « Allez-vous attendre qu'on vous commande de m'ouvrir les portes pour témoigner quelque égard à la reine de France ? Ne croyez-vous pas que ce serait agir assez sottement contre votre fortune ?» Les militaires sont souvent de naturel indécis, ce qui les prédispose à l'obéissance et leur fait perdre beaucoup de batailles. Bersumet, s'il avait pour ses subordonnés l'injure prompte et le poing leste, ne possédait pas de grandes dispositions à l'initiative devant les situations imprévues. Entre le ressentiment d'une femme qui, selon ce qu'elle affirmait, serait toute puissante demain, et la colère de Monseigneur de Marigny qui était tout puissant aujourd'hui, quel risque devait-il choisir ?
« Je voudrais aussi que Madame Blanche et moi, » dit Marguerite, « puissions sortir 1 heure ou 2 de cette enceinte, sous votre conduite, si vous le croyez bon, et voir autre chose que les créneaux de ces murs et les piques de vos archers. »
C'était aller trop vite et trop loin. Bersumet éventa la ruse. Ses prisonnières cherchaient à communiquer avec l'extérieur, et peut-être même à lui filer entre les doigts. Donc, elle n'était pas tellement assurée de leur retour en cours.
« Puisque vous êtes reine, madame, vous comprendrez que je sois fidèle au service du royaume, dit-il, et que je ne puisse enfreindre les règlements qui m'ont été donnés. » Il sortit là-dessus, pour éviter d'avoir à discuter davantage.
« C'est un chien !» s'écria Marguerite lorsqu'il eut disparu. « Un chien de garde qui n'est bon qu'à aboyer et à mordre !»
Elle avait fait une fausse manœuvre et rageait en parcourant la chambre ronde. Bersumet, de son côté, n'était guère plus satisfait.
Il faut s'attendre à tout quand on est le geôlier d'une reine, se disait-il.
Or, s'attendre à tout pour un soldat de métier, c'est d'abord s'attendre à une inspection.